France Info.
Bonjour Julien.
Au micro d'Estelle Faure aujourd'hui, Sajida, Guillaume et Victor, ils sont en CM2 à l'école Gutenberg dans le 15e arrondissement de Paris. Honneur aux filles, on débute par ta question Sajida.
Est-ce que Verdun c'était un monsieur ou pas?
Alors, drôle de question.
Oui, et une question qu'on n'aurait pas posée il y a quelques années à mon avis. Ça dit aussi que le temps a passé. Alors il faut quand même expliquer. Il y a beaucoup de boulevards, de Verdun, de cafés, de rues, d'allées dans Paris et dans tout le reste de la France d'ailleurs. Non, c'est pas un monsieur, c'est une ville. C'est même une place forte qui était la place forte française la plus proche de l'Allemagne au moment où les Allemands attaquent. C'est pas un monsieur, c'est pas une dame, c'est une ville.
Guillaume.
Qu'est-ce qui a causé la bataille?
Alors ça, c'est une question difficile. Il faut revenir un petit peu l'année précédente. On était sur ce qu'on appelait une guerre d'usure. Dans les tranchées, on n'arrivait pas à avancer. Et les Allemands décident de rompre cette guerre d'usure et d'avancer beaucoup plus vite. Alors il faut comprendre, Guillaume, que l'Allemagne va mal. Il y a un blocus. On empêche notamment les aliments d'arriver en Allemagne. Il commence à y avoir des émeutes de la faim en Allemagne. Et donc l'état-major allemand, l'armée allemande, se dit il va falloir peut-être accélérer un petit peu les choses. Et il faut une victoire décisive. Alors on va choisir effectivement Verdun, cette place forte française qui est très très proche de l'Allemagne. Ça va être énorme, il faut absolument marquer l'opinion publique. Les Allemands sont prêts à beaucoup de sacrifices. Ils ont calculé, c'est un peu terrible, que s'il y avait 5 morts français pour 2 morts allemands, ils gagneraient la guerre. C'est-à-dire quand même qu'ils sont prêts à perdre beaucoup d'hommes dans cette bataille.
Sajida à nouveau.
C'était quel pays qui s'affrontait?
Bon, on l'a dit.
Ouais, c'est la France et l'Allemagne, et c'est justement pour ça peut-être qu'on a conservé aussi longtemps en mémoire cette bataille, parce que il y a peu de Canadiens, d'Anglais qui sont plutôt sur la Somme. Là, c'est vraiment les Français et les Allemands. Et d'ailleurs, la bataille de Verdun sera bien plus tard un symbole de la réconciliation. Dans les années 80, il y a le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl et le président français François Mitterrand qui, main dans la main, iront à Verdun. C'est devenu aussi le symbole du rapprochement entre deux peuples.
Question de Victor.
Combien de temps sont-ils restés en guerre?
Alors ça durera très longtemps, vous avez dit 300 jours, 300 nuits. En octobre 1916, les Français reprennent le fort de Douaumont. Donc entre février et le mois d'octobre, ça s'est pas fini absolument là, mais c'est quand même des mois et des mois de bataille. Ce qui fait que souvent on appelle la bataille de Verdun la bataille des batailles.
Guillaume.
Cette bataille a causé combien de morts?
Alors c'est difficile parce qu'il y a des gens qui ont disparu. Tellement explosé par les obus. Il y a un ossuaire à Douaumont, on ne sait même pas qui est qui. Et donc, dans cet ossuaire, on a des os de combattants français et allemands qu'on n'arrive pas à identifier. Aujourd'hui, on pense qu'il y a environ 150 000 morts de chaque côté et au moins 200 000 blessés de chaque côté, vous imaginez. Et l'armée française a engagé 3/4 de ses hommes dans cette bataille. Donc, je sais pas, Guillaume, tu t'imagines, 3 Français sur 4 qui faisaient la guerre à ce moment-là, ils ont été engagés dans cette bataille. Donc,
ça montre vraiment l'importance.
Ah oui, importance stratégique,
de cette bataille.
Ouais, majeure.
Sajida.
Est-ce qu'ils ont tué des personnes qui n'ont pas fait la guerre?
Alors, pas tant que ça, parce que c'est pas la Seconde Guerre mondiale où il y a énormément de civils qui vont mourir. Là, ça reste
une
bataille.
Guerre de soldats.
Ouais, c'est une guerre de soldats, de poilus du côté des Français. Il y avait des villages qu'on avait évacués juste avant le début de la bataille. Donc non, il y a très peu de civils qui sont morts. À ma connaissance, il y en a quasiment pas. C'est d'abord des soldats qui meurent.
À toi, Guillaume.
Est-ce qu'ils ont détruit des villes?
Alors oui, il y a 9 villages aujourd'hui martyrs qui ont disparu, qui sont aujourd'hui des lieux de mémoire où on se promène, on visite, on se recueille aussi sur ces villages. Mais c'est des villages qui avaient été détruits, mais qui avaient été vidés de leur population dès le début de la bataille. Donc oui, il y a des villages qui ont été détruits, mais pas tant que ça en réalité.
Les deux prochaines questions, Sajida.
À la bataille, il y avait plus de femmes ou plus d'hommes?
Alors beaucoup plus d'hommes.
Oui.
Il y a des infirmières bien sûr à l'arrière, mais c'est surtout les hommes qui vont faire la guerre. C'est une histoire d'hommes et de soldats.
Pendant la bataille, est-ce qu'il y avait des enfants?
Alors c'est toujours la grande question que posent les enfants. Tout dépend ce qu'on appelle un enfant. Théoriquement, il n'y a pas de moins de 18 ans, mais il y en a quand même.
Des tout jeunes
probablement,
soldats.
Des tout jeunes soldats de part et d'autre d'ailleurs. Mais des enfants vraiment de vos âges, à vous qui me posez des questions, non, certainement pas à ce moment-là.
Non, pas des enfants de CM2.
Non, pas des enfants de CM2. Il y a des jeunes adultes.
16, 17 ans.
Ouais, les plus jeunes, c'est dans ces eaux-là.
Victor et Sajida.
Est-ce que les soldats étaient bien équipés pour la guerre?
Les soldats, est-ce qu'ils avaient des gilets pare-balles?
Alors des gilets pare-balles, ça existait déjà, des armures très lourdes en acier, mais trop lourdes, parce que il fallait avancer vite, il fallait courir, c'était vraiment des batailles un peu presque à l'ancienne encore à l'époque, donc on les mettait pas, il y avait pas de gilets pare-balles. En revanche, oui, c'était armé des fusils en bois à l'époque, des poignards, des baïonnettes, c'est ça qu'on avait, et puis des canons, des obus. Il y a eu des centaines de milliers de tirs qui ont eu lieu pendant la bataille de Verdun, même plusieurs millions même durant la bataille. On trouve d'ailleurs encore aujourd'hui des obus dans la région enterrés, c'est très dangereux. D'ailleurs. Donc, mais les hommes eux-mêmes étaient relativement peu armés, en fait, quand on imagine aujourd'hui la technologie de l'armement militaire.
Les soldats, est-ce qu'ils mouraient de faim ou pas?
Alors non, ils mangeaient plutôt bien. Ils avaient des rations dites fortes pendant les combats, ou alors ils avaient de la viande, du lard, des légumes, énormément de choses. Non, ils mouraient pas de faim. On avait faim à l'arrière. Hein. Mmh. Alors, dans d'autres régions françaises ou dans d'autres régions allemandes, pas sur le front. Là, il y a des civils qui pouvaient mourir de faim, en tout cas qui avaient très faim, parce qu'on mettait effectivement toutes les rations, toutes les bêtes étaient utilisées pour nourrir les soldats, parce que c'était là qui était l'essentiel à l'époque.
Guillaume ?
Est-ce qu'il y avait des personnes qui se rebellaient, qui voulaient pas faire de la guerre ?
Alors c'est ce qu'on appelle les mutins, des mutineries. Elles vont éclater, il a raison Guillaume de poser la question, mais après la bataille de Verdun, précisément parce qu'il y a une forme de lassitude, ils en ont assez les soldats de partir.
Ça marque un tournant.
Ouais, ils en ont vraiment assez parce qu'il y a la bataille de la Somme qui fait encore plus de morts que Verdun à ce moment-là. Et donc à partir de 1917, on commence à voir des mutineries se multiplier dans l'armée française, des gens qui refusent le combat. Il y a plusieurs dizaines de soldats qui vont ainsi être tués pour l'exemple, devant les autres, pour montrer qu'on n'a pas intérêt à quitter la première ligne, qu'il faut battre jusqu'au bout. Donc des mutins, oui, mais après Verdun, pas vraiment pendant Verdun.